La deuxième partie d'Onde Noire, avec quelques coups de cœur. On commence par toi, Jacques.
Bah oui, bah alors en fait, pendant les vacances de Noël, je vais vous dire, j'étais à Tahiti.
Bah c'est bien.
Hélas, sans prendre l'avion. J'ai juste pris un livre.
Remarque, sans prendre l'avion en ce moment, c'est peut-être pas plus mal.
C'est
mais
pas
bon.
Plus mal, ouais. Non, mais oui, en plus à l'époque. Non, mais sans, j'ai juste pris un livre en fait. Un livre qui est publié dans une collection, qui, enfin dans un éditeur qui s'appelle Au Vent des Îles, qui est un éditeur polynésien. Le livre, c'est un polar évidemment, puisqu'on est dans Onde Noire. Et il s'appelle Crois-le, avec un point d'exclamation. Et l'auteur est Patrice Guirao. Je vais vous parler du roman. C'est le jet lag en fait, voilà. Édouard Tudieu de la Valère, c'est le héros, il est détective privé. Mais en fait, il se fait appeler Aldorcé, parce que ça sonne quand même un peu mieux que...
Ça fait un peu valise, mais bon.
Voilà. Non, Dorsey, c'est le chef d'orchestre de Sinatra à l'époque.
Oh pardon, excuse-moi, mon manque de culture.
Mais bien sûr, il faut savoir. Bon, et un beau jour, ce brave Aldorcé, il reçoit dans son bureau un curé en uniforme, enfin... En tenue.
Ça s'appelle une soutane.
Une soutane, voilà. Qui lui remet un sac contenant des photos et caché au fond, 5 millions de dollars. Il lui raconte en même temps une bizarre histoire d'enlèvement d'enfants. Enfin bref, c'est assez compliqué puis un peu bizarre. Mais bon, Al, il prend le sac et puis voilà, il dit oui, je vais m'en occuper. Et puis peu de temps après, son bureau est vandalisé, évidemment, le sac disparaît et avec les dollars. Évidemment,
oui, c'est pas le sac qui est le plus embêtant.
Donc, du coup, ce brave Aldorcé va se sentir obligé d'enquêter, ce qui est somme toute son boulot vu qu'il est détective. Et Guirao.
Bah, appelle-le par son prénom, son
Patrice,
pauvre auteur dont tu écorches le nom.
Patrice Guirao est un auteur assez malin. Il mêle à son histoire tous les codes du polar, du détective, des enquêtes, genre le Sam Spade, matinée de Magnum, sauf que là, évidemment, au lieu de faire en Ferrari, il roule dans une vieille Renault 4, un peu pourrie. Disons qu'en fait, il invente un genre de rouletabille du Pacifique Sud. Et c'est ça qui fait le plus du roman, en fait, c'est le côté carte postale, un petit peu pub de l'office de tourisme de Papette. Mais bon, c'est quand même... un petit peu plus que ça. Il utilise beaucoup de vocabulaire local, avec quelques notes de bas de page, on en parlait tout à l'heure dans la première partie de l'émission, mais là, on est bien obligé parce que chez nous, qui sait qu'est-ce que c'est qu'un pacalolo ?
Ah, on peut imaginer plein de choses, voilà,
C'est la dénomination du cannabis là-bas, ou un vini. Alors un vini, c'est les téléphones mobiles, un peu comme on dit en italien, un telefonino.
Téléphonie.
Voilà, où le plus amusant, c'est le T-Fi-Fi, c'est un drap en patchwork. Moi, j'en ai noté quelques-uns, ça rajoute un peu à l'exotisme du roman, mais il n'y a pas que ça quand même, parce que c'est un roman noir aussi, et donc il nous décrit malgré tout quelques mauvais côtés de ce paradis de l'autre côté du monde.
Oui, effectivement.
C'est ça qu'on dit.
Je pense, oui.
Voilà, quand on prend l'avion longtemps, ou sinon on prend juste un livre de 350 pages. En fait, on sent que l'auteur a une grande facilité d'écriture, mais on a l'impression qu'il n'a pas trop forcé son talent, un peu comme s'il avait écrit en buvant un punch coco. Je ne sais pas si on boit du punch coco à...
À Tahiti, il doit y avoir du rhum et des noix de coco, donc ça doit le faire.
À l'ombre de, un punch, disons, à l'ombre d'un cocotier, voilà. Comme ça. Mais l'intrigue est quand même assez bien foutue, si j'ose dire. C'est assez intéressant, il raconte des choses assez précises qui sont pas mal, malgré quelques petites approximations.
Apparemment, tu as quand même quelques petites réserves.
Des approximations qui sont parfois un peu gênantes. Par contre, il y a quelques personnages secondaires parfaitement savoureux. Et dont un, je vous donne le nom, Paul Arnand Lying, qui s'appelle Toti en fait, et on le retrouve presque à chaque chapitre. À force d'être un personnage secondaire, c'est presque un personnage principal. Donc c'est un roman, malgré quelques réserves, que je n'hésite absolument pas à recommander, surtout par ces temps de froidure. On prend vraiment plaisir à la lecture. Disons, un polar monoï.
C'est bien. Donc moi, je vais vous refroidir un peu parce que les liens du sang dont je vais vous parler maintenant sont plutôt glacés. Donc, c'est un roman de Thomas H. Cook, avec ses fameuses lettres Thomas H. Cook. Voilà, merci. Qui est paru chez Gallimard, à la série noire, donc il y a peu de mois. Et c'est un roman traduit de l'américain par Clément Baude. Thomas Cook, là, ici, nous livre les souvenirs de David Sears. C'est un petit notable de province, marié, une enfant ado sans problème. On commence comme d'habitude dans les romans de Thomas Cook, une image du rêve américain. Mais évidemment, on va passer derrière le cliché, derrière le rideau. Et David, le narrateur, nous raconte son enfance et il va dévoiler petit à petit les failles, les drames. Un père, complètement fou, mort après un énième séjour en hôpital psychiatrique. Et puis nous faisons tout, petit à petit la connaissance d'une sœur, Diana, que David admire car ses lectures semblaient en fait la seule chose qui apaisait le vieux. Donc il a une reconnaissance, entre autres, en dehors de l'amour filial, il a beaucoup de reconnaissance envers cette sœur. Et Diana, elle, elle vit un drame actuel. Son fils Jason, qui s'enfonçait petit à petit dans une schizophrénie, Jason est mort noyé. Diane, séparée de son mari Marc depuis, elle le soupçonne, son mari, d'avoir tué son enfant. Et c'est là que l'enfer va commencer pour David et sa famille, car Diane va les entraîner doucement dans sa folie et sa violence. Et encore une fois, le doute va progressivement arriver au fur et à mesure de la, Diane, de la narration. Pardon. Et si Diana, voire David, avait hérité des désordres mentaux de leur vieux, comme ils l'appellent. J'ai cité pour reprendre le style du livre, « Nous sommes comme la terre. La température de la surface peut varier, mais dans notre cœur, nous sommes tous incandescents. » Et je trouve que ça correspond bien au récit parce que le récit lui-même est incandescent. C'est une histoire terrible qu'apaise heureusement, méthodiquement, la confession que Sears fait à Petri, un policier qui recueille son témoignage. Le témoin, donc David, s'adresse à lui-même pour se souvenir, pour piocher dans sa mémoire subjective des indices qui expliquent. Mais qui explique quoi en fait ? Pourquoi Sears, au fur et à mesure qu'on apprend son histoire, est-il interrogé par la police ? Bah, c'est ce que vous découvrirez évidemment en lisant ce très très beau roman. Et les deux récits s'entremêlent pour augmenter en fait l'intensité dramatique. C'est une technique narrative redoutable et terriblement efficace qu'utilise avec beaucoup de maestria Thomas Cook. Ainsi, insensiblement, le malaise, le doute, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'installe chez le lecteur. La vérité lui échappe constamment et les sentiments que nous inspirent les personnages varient en fait au gré de la plume de l'auteur. Alors Thomas Cook, je vous en avais beaucoup parlé pour son précédent livre, son précédente traduction, on va dire, qui s'appelait « Les feuilles mortes ». Chez le même éditeur, et c'était vraiment un coup de cœur, Les Feuilles Mortes. Honnêtement, celui-là est peut-être un tout petit peu en deçà des Feuilles Mortes, qui était un petit chef-d'œuvre, mais Cook explore avec quand même beaucoup de subtilité, et d'ailleurs une bonne dose de sadisme, les liens familiaux, ces liens du sang qui peuvent engendrer tant d'affres et de tourments. Et maintenant, je vais m'arrêter parce que le chat dans la gorge que j'ai m'empêche complètement.
Ben, nous allons donc passer un petit morceau de
voilà.
Musique dont on parlera ben, après.
Voilà. You'll never change, but you're no better than the weather. You're cool, but there's rain in your heart. You've blown like a feather. And that's the only star in the world. You lost the key to paradise. That's the only star in the world. Did we have it made? Somehow I thought we could remain. If nothing lasts, no one's to blame. And you can't look back to where you got off the track. That's a mystery that will never crack. It's just the oldest star in the world. Lost key to paradise. That's the oldest star in the world. Today we gotta set it right. And that's the oldest star. Alors Jacques, dis-nous-en un petit peu plus sur ce morceau et ce groupe.
Donc le groupe s'appelle les Plimsolls, le morceau s'appelle Oldest Story in the World, comme il nous l'a répété quelques fois. C'est un groupe américain des années 80, plutôt sympa, avec des belles guitares Rickenbacker, des harmonies vocales. Malheureusement, à l'époque, c'était un peu la New Wave, donc avec des synthés, des gens qui chantaient bizarrement. Et donc, ils ont eu assez peu de succès.
Et pourquoi t'ont passé ce morceau ?
Oh ben parce qu'en fait, ils sont dans le roman dont tu vas de Jean-Bernard Pouille, dont tu vas nous parler dans quelques instants. Ils y sont à un moment, une petite anecdote. Il y a un des protagonistes qui casse un des vinyles de Plimsoll.
Des Plimsoll.
Voilà,
ouais.
Pour une raison que dont je ne me souviens plus.
C'est pas grave, c'est pas l'argument
du
roman.
Mais qui n'est pas vraiment important.
Voilà, donc comme je l'ai annoncé dans le sommaire de l'émission, nous allons vous parler rapidement de deux romans de Jean-Bernard Pouille, rapidement parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. En gros, cette rubrique pourrait être sous-titrée « Cet homme nous attendra toujours ». Deux livres, le premier sorti en mars 2009, on vient de dire le titre, ça s'appelle « Rosbif Senior », ça fait partie d'une série qui s'appelle « Les enquêtes de Léo Tanguy ». Et c'est à un éditeur,
breton.
On va dire, régional, qui s'appelle Cop Braise. Excusez-moi, parce que je ne dois pas très très bien prononcer. Et le deuxième, dont nous parlera aussi Jacques tout à l'heure, vient de paraître chez Baleine, et ça s'appelle « Les compagnons du Vaudor ». Nul doute d'ailleurs qu'il y ait un hommage déguisé à l'association La Noiraude, les compagnons du Vaudor. Donc dans le premier, Rosbif Senior, on va dire que c'est du breton bretonnant. Mais évidemment, mené de main de maître par un Jean-Bernard Pouille en pleine forme qui semble toujours autant s'amuser à nous divertir. Mais attention, c'est toujours pareil avec cet auteur. Derrière la légèreté du ton et les blagues à dessous qui parsèment cette enquête de Léo Tanguy, on retrouve quelques préoccupations sociales et politiques plus sérieuses qui nous intéressent toujours autant. Alors donc, c'est un livre qui part d'une série qui s'appelle « Les enquêtes de Léo Tanguy ». Je crois qu'il y en a 3 ou 4 déjà qui sont parus. C'est Gérard Hall qui en est le directeur de collection.
C'est le même auteur de Polar.
Voilà, donc il y a une bible pour chacun des auteurs qui écrit une de ces enquêtes. Ça se passe dans un futur proche, 2015. En gros, rien n'a changé, sinon en pire. Léo Tanguy est, on va dire, un cyber-enquêteur. Il utilise énormément Internet. Et le petit côté rigolo, c'est qu'il conduit un combi Volkswagen, qui doit dater donc des années 1960, qui, semble-t-il, a bien résisté à la taxe carbone.
Mais oui, c'est en fait parce qu'il a un moteur qui est modifié, qui utilise un des nouveaux futurs... futur, disons, essence, je ne sais pas comment on peut dire, qui est plus ou moins écologique.
Voilà, qui lui permet surtout de dormir dans ce...
Non, il est très écologique.
Oui, il est très, bien sûr. Ah oui, parce
de toute façon, à l'époque, il n'y aura plus d'essence, donc il faudra bien...
Voilà, donc je rappelle le titre avant de laisser la parole à Jacques. Rosbif Senior, Jean-Bernard Pouille, aux éditions Cop Braise. Alors, Les compagnons du Vaudor, je vais me permettre de dire que c'est un livre à prendre par devant... Et par derrière.
Eh ben, c'est exactement ce que j'envisageais de dire, mais puisque tu l'as dit toi-même. C'est donc en fait Les compagnons du Vaudor, volume 1 par devant et volume 2 par derrière. En fait, c'était un roman feuilleton en 6 épisodes que Jean-Bernard Pouille avait publié dans la hélas défunte revue Polar Shanghai Express. C'était dans la revue et donc ils les ont réunis dans un double volume.
Un double petit volume
qui fait un seul roman aux éditions Baleine pour la modique somme de 10 euros. C'est une petite coquetterie d'édition, ce côté on lit une fois à l'envers, on le retrouve.
Mais c'est
plutôt amusant. Le héros de ce roman, recueil, s'appelle Drano. Il est rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Ni Dieu, ni Maître, ni Patron. Un journal donc anarchiste libertaire. Il le vend par abonnement et sur le marché Richard Lenoir, avec moult anecdotes. Un jour, il part... En fait, il part à la recherche d'Eva, qui est une belle pute estonienne, à moins qu'elle soit lituanienne, qui est la copine d'un de ses potes, Marcel, dont il est tombé amoureux. Et évidemment, elle a disparu puisqu'il part à sa recherche. Et on va se retrouver en Bretagne, embringué dans une histoire de patron d'industrie, un serial killer de patron voyou.
Oui.
Mais bon, Pouille, bien sûr, bien plus malin
que ça. À l'imagination foisonnante,
voilà,
cher Jean-Bernard
Pouille. Voilà, mais bien plus malin que ça, ça va pas être ça du tout, comme vous pouvez l'imaginer. Au-delà de l'histoire, comme dans le roman dont tu viens de parler, c'est le style de Pouille, ses digressions musicales, philosophiques, politiques qui font l'intérêt du roman. Ses humours, ses déconnades, si j'ose dire. Car il est capable d'écrire, de dire des choses super sérieuses, tout en s'amusant et en s'amusant et en amusant ses lecteurs.
Voilà, c'est vraiment deux petits bijoux, quoi. C'est deux petites confiseries à s'offrir ou à offrir. Ben voilà, notre émission, la première émission de 2010 est terminée, s'achève. Donc on va vous souhaiter de bonnes lectures et bien à la prochaine fois.